Bonjour et bienvenue à Point de vue. Ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire aujourd'hui, à Montréal, une ancienne juge de la Cour suprême du Québec se convertit en écrivaine publique. Louise Coupal prête sa plume.
Avant d'écrire, vous savez, il faut écouter. Je voudrais être très attentif à l'autre.
On va finalement pouvoir se faire livrer du cannabis à la maison en Alberta. Et faire pousser ses légumes quand la belle saison ne dure que 3 mois, les trucs de la pleine lune de juin, de la Basse-Côte-Nord au Québec.
Habituellement, ici, à Tête-à-la-Baleine, ça va pas avant la pleine lune de juin. L'an passé, on a été capable de semer un peu plus tôt, à la pleine lune de mai, l'an passé. Mais cette année, ça me surprendrait qu'on soit capable de... Ça va dépendre de la vitesse à laquelle la neige va s'en aller, bien entendu.
Et une nouvelle association franco-ténoise voit le jour dans les territoires du Nord-Ouest.
Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction avec des beaux projets, des belles visions, des membres actifs, une communauté active, des communautés maintenant actives. On n'a pas juste les francophones, on a les francophiles, on a les franco-curieux, on a beaucoup de gens qui se lient avec nous à chaque année.
Bienvenue à Point de vue. Alors imaginez rencontrer une personne que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et vice-versa. Et que cette personne soit venue vous voir, oui vous, pour que vous écriviez une lettre pour elle. Prête-moi ta plume pour écrire un mot comme on chantait au clair de la lune, au souvenir. Alors, venir vous voir vous pour que vous preniez le trône d'écrivain public. Eh bien voilà, une ancienne juge de la Cour supérieure du Québec a décidé de faire justement ça. Suzanne Coupal s'est transformée en une écrivaine publique en profitant de sa retraite. Elle peint aussi. Le déclic, elle l'a eu lorsqu'elle a regardé une série web qui portait le même nom. Et elle s'est dit, bon, pourquoi pas? Sa plume, qui est d'ailleurs bien bilingue, elle offre donc maintenant ses services à heure régulière dans 2 bibliothèques du Grand Montréal. D'abord à la bibliothèque Mordecai-Riclair. Mais le projet a remporté un tel succès que la ville de Montréal l'a étendu à la bibliothèque de Saint-Henri dans le sud-ouest de la ville. Un écrivain public offre donc aux personnes qui maîtrisent mal l'écriture une aide gratuite, que cela soit pour écrire une lettre d'amour, pour remplir des formulaires administratifs, des communications juridiques ou des lettres. Suzanne Coupal sait s'occuper en tant que chroniqueuse judiciaire. Madame Coupal est intervenue dans plusieurs médias québécois. Elle parle donc de sa plume au micro de Sophie Stanquet.
Bonjour Madame Coupal.
Bonjour.
Alors racontez-nous comment vous est venue l'idée d'être écrivaine publique.
Ah ben vous savez, pendant la pandémie, on a eu le temps d'encore un peu plus lire hein, et regarder des séries. Et vous savez, il y avait une série au Québec qui s'appelait L'écrivain public, là, entre autres avec Emmanuel Schwartz. Et puis ben, à partir de cette série-là, ben je me suis mis à lire, à faire un peu de recherche et j'ai trouvé entre autres que ce métier ou cette profession d'écrivain public était très populaire, entre autres en Europe, en France, dans les pays d'Afrique, au Maroc, et qu'elle existait depuis, je ne dirais pas des millénaires, mais presque. Alors, c'est ce travail, alors, qui m'a intéressée. Je me suis dit, ben, au Québec, est-ce qu'on a justement cette possibilité de rencontrer, de faire affaire avec un écrivain public? Et c'est comme ça qu'après avoir vérifié auprès, entre autres, des bibliothèques de Montréal, ben, on m'a dit au printemps dernier qu'on essayait justement de monter ce type de projet. Et puis, ben, on a tenté l'expérience au printemps dernier, justement.
En même temps, vous rentrez dans les vies intimes des gens, mais c'est merveilleux parce que il y a des lettres qui sont là pour aider. Et vous pouvez avoir de tout, quoi. Il peut y avoir une lettre d'amour, il peut y avoir une lettre d'avocat, il peut y avoir toutes sortes de lettres. Et comment ça se passe? C'est merveilleux, ça.
Bon, alors d'abord, vous savez, dans le temps de la pandémie, on a de la difficulté à être en présence hein, de la personne. Alors, oui. On le fait maintenant par plateforme. alors par Zoom là, pour bien comprendre. Mm-hmm. Pour l'expérience qu'on fait actuellement, les personnes se présentent à la bibliothèque. Alors on le fait actuellement avec la bibliothèque Saint-Henri. Elles se présentent à cet endroit et elles sont mises en contact avec moi. Et puis c'est pour différents problèmes. Vous savez, ça peut être autant parce qu'une personne est dans l'incapacité de lire, mm-hmm. De comprendre, mais ça peut être aussi parce que, ben, vous savez, derrière ces formulaires gouvernementaux, entre autres, il y a souvent plusieurs questions pour lesquelles on ne sait trop quoi répondre. Hein. Il y a de la difficulté à bien interpréter ce qu'on lit. Alors, ça peut aller, c'est variable, hein. Ça peut aller vraiment de la simple compréhension d'un texte à la revision d'un texte. Mm-hmm. Il y a des personnes qui ne sont pas, que la langue française n'est pas leur première langue, alors elles veulent vérifier aussi si c'est bien dit, c'est bien fait, c'est bien écrit. Effectivement, vous avez raison de mentionner le côté aussi juridique. En fait, comme on sait que j'ai exercé la profession d'avocat et comme ancien juge, ben, on est porté à venir vers moi pour me poser quelques questions d'ordre juridique. Mm-hmm. Mais évidemment, je suis pas là comme conseiller juridique. Alors, c'est surtout et avant tout un problème de compréhension, soit parce qu'on n'est pas en mesure de lire la langue française ou la langue anglaise, là, ou bien parce que ben, on ne comprend pas l'essence même d'un texte qu'on a, auquel on a à répondre.
Parce qu'il y a quand même 34% des Québécois qui ne savent pas lire ni écrire, c'est énorme. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites devant une page blanche, c'est-à-dire quelqu'un qui veut écrire une lettre, comment vous faites pour faire parler la personne et pour vraiment traduire ce qu'il veut dire?
Ben, je pense que ça commence, avant d'écrire, vous savez, il faut écouter. Je voudrais être très attentif à l'autre. Alors, évidemment, par plateforme web, hein, on a la personne par écran. Hein. C'est plus difficile de lire l'individu, mais je pense qu'il faut s'attarder à essayer vraiment de comprendre. Alors, on questionne. D'abord, la personne, elle se présente parce qu'elle a quelque chose à dire, hein, mm-hmm. parce qu'elle veut exprimer un besoin. Alors, il faut lui dire, ben, qu'est-ce que vous voulez exactement? Et en questionnant tranquillement, on arrive à saisir quel est le besoin de cette personne. Alors, pour des besoins plus intimes, comme des lettres, il faut questionner quel est le but, qu'est-ce qu'on recherche. Et vous savez, les personnes sont capables de s'exprimer, alors elles le disent. Elles disent bien oralement ce qu'elles n'arrivent pas à écrire souvent. Mmh. Et par la suite, ben moi, je les aide à plutôt verbaliser ce qu'elles veulent dire. Et si je constate qu'elles ne sont pas en mesure de l'écrire, ben, je vous dirais, on l'écrit ensemble. Hein. Je peux être leur main, mais ce n'est pas moi qui va choisir toujours les mots. Et ce qu'il y a de facile dans le travail d'écrivain public, c'est que vous arrivez, vous parlez, vous écoutez, vous écrivez avec l'écrivain public s'il y a un besoin d'écrire, et puis ça se termine là. Mm-hmm. La rencontre a un début et une fin, et il n'y a pas un processus lourd pour arriver vers l'écrivain public. Alors, à quelque part, les personnes qui choisissent de bénéficier de ce service-là, c'est parce que c'est pour eux, sans être nécessairement un dernier recours, c'est quelque chose de facile. Mm-hmm. Et évidemment, comme ils sont assurés d'une certaine confidentialité, ben, ils savent que ça se termine après la rencontre, généralement.
Alors, en terminant, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Suzanne Coupal?
Ben, vous savez, comme ancien juge en matière criminelle, hein, et vous savez, la matière criminelle, généralement, il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles, là, ce qu'on est là comme juge, mais ça connecte avec la réalité sociale. Et pour moi, il est important de rester justement connecté avec cette réalité sociale. Mmh. Et je trouve que c'est donner ce que je peux donner à quelque part. Je pense qu'il faut... particulièrement, c'est un temps difficile, apprendre à être généreux et à pouvoir aider avec le bagage qu'on a. Et pour moi, j'aime rencontrer des gens, j'aime ça, connaître d'autres réalités. Et d'une certaine manière, c'est une continuité dans ces rôles que j'ai exercés d'avocate et de juge.
Merci, Mme Coupal.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
« La livraison de cannabis est désormais permise en Alberta, tout comme sa vente en ligne. Les Albertains peuvent depuis le 8 mars dernier commander du cannabis en ligne et les magasins qui en vendent pourront livrer à domicile à condition de respecter les normes établies par la Commission des jeux, du hasard, de l'alcool et du cannabis de l'Alberta. Chaque vendeur s'engage à dévoiler et confirmer son identité et les produits ainsi vendus devront être inspectés par la GLC, donc la Commission des jeux de hasard, avant d'être affichés sur les sites web de ces entreprises. Et la GLC renonce quant à elle à s'investir dans le créneau de la vente en ligne, ce qui laisse ainsi le champ libre à l'entreprise privée. Il faut savoir, par exemple, que les règles changent d'une province à l'autre. Au Québec, par exemple, les 21 ans et plus peuvent faire livrer leur cannabis à domicile depuis belle lurette. On dit que les affaires tournent rondement pour la Société québécoise du cannabis. Au Québec, la SQDC a enregistré des ventes de 190 millions de dollars au cours de son troisième trimestre, qui s'est terminé le 1er janvier 2022, une augmentation de 17,5 millions par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent. Près de 35 000 kilos de cannabis ont été vendus légalement au cours de ce trimestre. Les ventes en ligne ont atteint 1,736 kg de cannabis pour un total de 9,6 millions. Le nombre de transactions sur le web a atteint 117 554 transactions.
Sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Bon, on ne sait pas si le service de livraison de la SQDC se rend jusqu'à Tête à la Baleine sur la basse côte nord au Québec, mais les semences de fruits et légumes, oui. C'est ce qui permet aux jardins communautaires de l'organisme Nutrinor d'être encore actif l'été prochain. L'organisme situé aux abords de l'église Tête à la Baleine offre aux baleinois des semences de fruits et légumes. Dès qu'on sent le printemps venir là-bas, on doit se dépêcher car la saison est courte et il ne faut pas rater son entrée en terre. Pour les gens du village, cela indique qu'il est temps de commander les semences des légumes qu'ils souhaitent voir pousser dans leur potager au cours de l'été. Pour les autres, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur le fonctionnement de ce programme fédéral qui vise à rendre plus abordables et accessibles des aliments nutritifs ainsi que certains articles essentiels en régions éloignées comme là, en Basse-Côte-Nord. Micheline Lapointe-Monger coordonne ce projet depuis nombre d'années, un projet qui entre dans son second cycle de 5 ans. Chaque année, elle invite donc les baleinois à la joindre pour recevoir des semences de légumes pas frileux, comme on dit là-bas. Laitue, kale, choux, pois et légumes racines. Nutrition Nord a aussi son jardin communautaire. Il reprendra du service lorsque la température évidemment le permettra. On y fait pousser des pimbinas, des framboises, des fraises, des bleuets, des cambrises, des groseilles et des asperges. 11 pommiers ont aussi été plantés. Pénélope Clermont a rencontré l'instigatrice de ce projet, Micheline Lapointe-Monger.
Les activités de Nutrition Nord reprennent petit à petit à Tête à la Baleine. Alors pour les gens du village, ça signifie que c'est le temps de penser à votre jardin. Et pour ceux de l'extérieur, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur le projet qui a entamé l'année dernière un deuxième cycle de 5 ans sur notre territoire. La coordonnatrice du projet, Micheline Lapointe-Monger, résidente de Tête à la Baleine, prend présentement les commandes de semences auprès des baleinois pour la saison estivale à venir. terre. Dans le prochain extrait, je la laisse vous détailler quels légumes pourront pousser dans vos potagers cette année. Elle précisera également en quoi la contribution de Nutrition Nord diffère de l'an dernier. Vous entendrez aussi à l'occasion la voix de son mari, Gilles Monger, bien au fait du projet.
Ce sont tous les légumes, les pas frileux qui poussent bien ici, tout ce qui est laitue, kale, choux, pois,
carottes,
les légumes racines qui n'ont pas de misère aussi.
Les bêtes, ça fait partie de quoi des légumes aussi?
Les légumes racines, bêtes, carottes, navets, tout ça.
Puis c'est pas la première fois qu'il y a des semences qui sont distribuées comme ça au village?
Non, ben l'an passé, on avait fait une commande commune, mais chacune avait payé sa part. Okay. Tandis que cette année, le comité de travail a décidé de les offrir gratuitement au lieu d'offrir de la terre et du compost,
okay,
comme on l'avait fait l'an passé. Alors, on va remplacer, la contribution de Nutrition Nord sera pour les semences au lieu de la terre et du compost.
Femme d'expérience qui n'en est pas à un premier potager, Mme Lapointe-Monger nous explique ce qui nous attend.
Habituellement, ici, à Tête-à-la-Baleine, ça ne va pas avant la pleine lune de juin. L'an passé, on a été capable de semer un peu plus tôt, à la pleine lune de mai, l'an passé. Okay. Mais cette année, ça me surprendrait qu'on soit capable de... Ça va dépendre de la vitesse à laquelle la neige va s'en aller, bien entendu.
Ça veut prendre combien de temps, ces légumes-là, à pousser, une fois plantés?
Dans le catalogue, il y a toujours un nombre de journées pour la maturation. Moi, ce que je suggère, c'est entre 40 et 50 jours de maturation. Il y a le mesclun puis les radis qui sont 27-28 jours. Mais ici, habituellement, quand on sème à la pleine lune de juin, on va jusqu'au... En septembre, on est capable de récolter la plupart.
Soulignons que Nutrition Nord en sera à une 7e saison à Tête-à-la-Baleine cette année. L'instigatrice du projet nous rappelle l'objectif premier de l'initiative.
Le but de Nutrition Nord, c'est un mode de vie sain. Et puis, ce qu'on préconise, c'est l'achat local, la fraîcheur, toutes les localités qui ne sont pas reliées par la route, mais il faut avoir un aéroport et puis un marchand qui soit affilié aussi pour faire partie du groupe Nutrition Nord. Il y a une treizaine de localités sur la basse côte, puis il y en a un aussi dans le nord qui fait partie du groupe Nutrition Nord. C'est moi qui ai lancé l'idée de jardin communautaire, parce que quand on a entendu parler de Nutrition Nord, c'était Nutrition Nord éducation. Il y a d'autres villages qui ont concentré ça plus sur l'éducation, les saines habitudes de vie pour les enfants. Mais nous, ici, avec trois étudiants, disons que c'est beaucoup plus difficile. Mm-hmm. Alors, ce qui m'habite, c'est quand les légumes, les fruits arrivent ici, ils ont déjà une semaine de transport minimum avant d'arriver. Ouais. Alors, les fraises nous arrivent sur les tablettes à moitié pourries, les framboises amochées, bon. Quand j'arrive en ville, je vois la fraîcheur des aliments, je veux tout acheter. Alors j'ai dit, si on arrivait à avoir des fruits et des légumes, parce que un potager, j'en fais un depuis 1984, je sais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça prend d'investissement, d'huile de broc,
oui.
Mais j'ai dit, si on arrive à avoir un jardin de petits fruits, c'est comme c'est pérenne, comme c'est vivace, même quand je ne serai pas là, le jardin va produire quand même, puis il va y avoir de la fraîcheur. On a des pimbinas, on a des framboises, des fraises, on a planté en juin dernier 11 pommiers de 2-3 ans, on a des bleuets, des cameries, des groseilles, des gadelles, des cassis, des asperges.
Oui.
C'était donc Micheline Lapointe-Monger qui fait partie du comité de travail de Nutrition Nord ici à Tête-à-la-Baleine. Thank you.
quinzaine de personnes se sont regroupées dans les territoires du Nord-Ouest pour fonder l'Association franco-ténoise du Sud et de l'Ouest. L'organisme s'est ainsi constitué lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 26 février 2022 à l'école primaire boréale de Hay River. Les membres de l'Association franco-ténoise du Sud et de l'Ouest entendent rapidement développer, déployer les services et activités de l'organisme dans les régions du Decho et du Slave Sud. L'équipe compte aussi profiter de la levée des restrictions sanitaires pour partir à la rencontre des francophones, francophiles et franco-curieux de ces nouvelles collectivités d'adoption. L'association franco-ténoise remplace ainsi l'association franco-culturelle de Hay River. La direction générale de l'AFTSO est assumée par Mila Benoît. Elle sera entre autres responsable du nouveau mandat jeunesse de l'association. Et Christine Civray en assume la présidence. Notre journaliste Thomas Etier l'a rencontré.
Je suis avec Christine Civray, présidente du conseil d'administration de l'AFTSO, qu'on connaissait sous AFCHR. Donc, c'est officiel là, à partir d'aujourd'hui. L'AFTSO va se déployer là, à travers le Slave Sud et le Decho.
Mm-hmm. C'est bien ça. C'est bien ça.
On a annoncé la levée très bientôt des restrictions sanitaires au territoire du Nord-Ouest. Comment est-ce que ça va se passer, votre sortie de pandémie?
Je sais qu'on a des vraiment beaux plans en vue. On a des plans de spectacles d'envergure aussi, soit avec les Hay Days et aussi pour la Saint-Jean. Donc, on vous laisse juste ça. On dit pas plus, mais c'est ça qui s'en vient. On s'attend d'avoir des artistes qui viennent en présentiel. Aussi que Hay River, que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu ici. Donc, on est vraiment excités à propos de ça. Puis aussi, c'est ça, on veut organiser des activités à Fort Smith aux 2 mois. Ou dans le Decho, à tous les 2 mois. Ouais.
Donc, à Fort Smith ou dans le Decho, ouais. À tous les 2 mois.
Ouais.
C'est un premier engagement, là, dis-moi.
C'est exactement.
Concrètement, la question est très large. Qu'est-ce que ça va changer? Vous êtes maintenant l'AFCTSO. Bon, vous vous déployez, vous élargissez votre couverture. Des activités à tous les 2 mois, sinon?
Sinon, ben, c'est l'identité. C'est l'identité francophone. Moi, je suis restée à Fort Smith pour 7 ans. On se détache un peu notre culture quand on n'a pas de quoi se rassembler autour. Puis avec l'asso qui va être capable de ramener, j'espère, cette identité francophone ensemble, je pense que ça va faire que exactement les francophones vont se rassembler de plus en plus. Puis c'est ça notre mission, dans le fond, c'est de se rassembler aussi entre nous, dans le fond.
Peut-être nous parler un peu de votre nouveau mandat entourant Jeunesse TNA.
Mm-hmm. Donc, le poste jeunesse qui appartenait avant à la Fédération franco-ténoise, ils ont accepté de diviser ce poste-là entre l'association francophone de Yellowknife et l'association de francophones du Slave Sud et du Decho. Donc, présentement, on va avoir un autre poste que notre direction générale qui va aider à faire des activités sur le côté jeunesse. Tu sais, je sais, en étant aussi une enseignante à l'École boréale, que plusieurs jeunes veulent s'impliquer dans la francophonie. Donc, je pense que ça va être juste bénéfique pour nos régions.
On parle d'une certaine collaboration. On entendait parler d'un besoin de collaboration cet automne, là, peut-être spécialement du côté de la FFT, besoin de collaboration entre les organismes francophones des TNO. Comment est-ce que ça se traduirait de votre côté?
Je crois qu'on a déjà beaucoup de partenariats, puis que c'est vraiment bien, puis je crois que c'est vraiment important que ces partenariats-là continuent, que ça s'arrête pas là. On est là, puis on va toujours demander d'avoir des partenariats puis avoir des services ici aussi. Puis l'association, c'est ça qu'elle est là pour aussi desservir ses membres. Donc, ce que les membres vont vouloir, on va créer les partenariats qui auront besoin d'être faits avec ça, là.
La GA vient de couvrir l'année qui se terminait en mars 2021. Mm-hmm. Comment ça se passe depuis le printemps 2021?
C'est super. Depuis, on a fait beaucoup d'activités. Puis aussi, c'est avec un grand soulagement que Mila Benoît, notre directrice générale, est arrivée. Et comme je l'ai dit, durant la GA, a été capable de pédaler très rapidement vers le succès. Puis, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction avec des beaux projets, une belle vision, des membres actifs. une communauté active, des communautés maintenant actives.
Vous parlez de communautés actives. Qui sont les francophones du Dacho et du Slave Sud?
C'est dur à quantifier vraiment combien de membres nous avons, mais on n'a pas juste les francophones. On a les francophiles, on a les franco-curieux. On a beaucoup de gens qui se lient avec nous à chaque année. C'est vraiment dur à dire le nombre, mais on est plusieurs, puis ça grandit à chaque année.
Mm-hmm. Comment est-ce qu'on les décrit? Comment est-ce qu'on va aller les chercher, ces gens-là?
Donc, je crois que la meilleure chose, c'est d'envoyer les gens là, en présentiel aussi, avec les règles sanitaires qui vont lever. Je pense que ça va nous aider à vraiment aller connecter de nouveau avec les communautés. Qui a été un peu, c'est ça, depuis la pandémie, qui n'a pas été capable d'être fait. C'est important aussi, c'est ça, d'aller voir les services aussi, puis d'aller voir les gens qui ne sont pas nécessairement non plus dans les écoles, mais aussi à l'extérieur de nos petits nids francophones qu'on a déjà d'établis, mais d'aller plus loin que ça.
Est-ce qu'on a certains objectifs avec la FDSO, disons, sur les 5 prochaines années, par exemple?
On a des vraiment grosses ambitions, mais tu sais, on va voir où est-ce que nos ambitions vont aller. C'est sûr que nous, on aimerait éventuellement avoir un centre culturel aussi, comme à Yonef. C'est sûr que ça serait pas le même type, ça serait plutôt communautaire. On a aussi le but peut-être d'ouvrir une garderie en lien avec d'autres services, qui serait peut-être quelque chose que la communauté aimerait avoir, parce qu'on s'occupe déjà du service de garde. C'est des plans à long terme, c'est rien de définitif, mais c'est des grosses visions que nous, on aimerait éventuellement être capable d'aller aussi. Mais de présentement, notre but ultime, c'est de solidifier notre association. Une fois que c'est solidifié, là, on peut élargir un peu plus loin.
Christine Civret, présidente de l'AFTSO, merci beaucoup.
Merci, Thomas.
Et bien voilà qui complète cette édition de Point de vue, une émission produite par les équipes radio de l'Initiative de journalisme local et présentée par le Fonds canadien de la radio communautaire. Découvrez toutes nos nouvelles sur canada-info.ca. C'est notre salle des nouvelles virtuelle. Les reportages de nos journalistes y sont mis en ligne au quotidien. Ils nous permettent de découvrir le Canada dans son entier et d'avoir un autre point de vue sur nos communautés locales. Retrouvez-nous aussi sur nos médias sociaux et notamment sur Twitter, @CanadaLJ. Canada LJI. On remercie nos journalistes Thomas Etier, Vincent Savard, Sophie Stanquet, Pénélope Clermont et leurs invités. Merci à notre coordonnateur national francophone Stéphane Bénard. Ici Boris Chassagne, merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.